Ce Radio Barque, 33e de la 5e saison, pour une deuxième partie, prévoit que nous revenions, Michel, sur le vote de Alain Perea, qui a, pour dire les choses simplement, voté contre son gouvernement. C'est un peu ça.
Il a voté contre un projet de loi présenté par le gouvernement. Et alors, situation quand même assez...
Expliquons.
Situation quand même assez exceptionnelle, quoi, en tout cas dans l'histoire de cette législature qui n'est pas encore terminée, évidemment, quoi. C'est qu'il fut le seul élu de la République En Marche à voter contre, sur plus de 200 et quelques.
Oui, bon, c'est arrivé dans d'autres cas, pour
d'autres lois. Alors bon.
Mais là, c'est bizarre.
Ils étaient, je crois, 9 au départ à, pas être trop d'accord sur le projet tel qu'il était présenté. Il y a eu des réunions en commission. Donc, bon, du coup, pouf, ils se retrouvent tout seuls à voter contre, même pas l'abstention.
Oui, à voter contre. Ça, c'est clair.
En compagnie, d'autres, évidemment, de toute l'opposition, pas toutes quand même, parce qu'il y a des gens, il y a des élus des Républicains qui ont voté pour, en fait. Bon, pas tous, même, mais quelques-uns.
Alors, il s'agit d'un projet de loi sur la réforme de la fonction publique.
Un projet de loi très compliqué, très dense et très compliqué. Très compliqué parce que, il revoit, en fait, non pas toute l'architecture, en fait, de la fonction publique, qui en comprend trois, en fait, dans ce pays. La fonction publique de l'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, qui, toutes les trois, sont organisées, en fait, sont encadrées par des statuts qui, sur le plan des traitements, sur le plan des roulements de carrière, sur le plan de l'architecture des corps, en fait, et de la relation entre eux, est quasi identique. Sauf que, il n'y a pas les mêmes écoles. Enfin, de la santé pour l'hospitalière, c'est l'école de la santé de Rennes pour les directeurs. Pour les territoriaux, c'est une école spécialisée, pareil, pour les administrateurs territoriaux. Et pour la fonction publique de l'État, c'est l'ENA, comme tout le monde le sait. Donc, trois grandes écoles pour les droits encore. Mais pour le reste des carrières, c'est à peu près pareil. Donc, cette loi, rapidement, fluidifie un petit peu tout le système. Elle permet, par exemple, de pouvoir recruter pour certaines communes qui ne le pouvaient pas, en fait, antérieurement, des directeurs généraux de services qui ne soient pas nécessairement des fonctionnaires territoriaux, donc par la voie contractuelle. Donc c'est toute une logique qui tend à libérer...
C'est un peu une ouverture, quand même.
Ah oui, considérable. Ça n'existait pas, en fait, dans le passé. Mais je veux dire, dans le passé, proposer ce genre de réforme, c'était la révolution, en fait, syndicale, tout le monde dans la rue.
On s'attaquait aux fondations du château fort.
Complètement. Là, je constate que même les syndicats, ils ont tenté une opération de contestation qui a été complètement foirée, passez-moi la vulgarité de l'expression. Et puis, ils s'expriment pas beaucoup, Donc, ils sont plutôt discrets parce que, globalement, quand même, si ça touche un certain nombre de questions, ça bouleverse pas. Et là, alors, je dis, mais quelles sont les raisons, quels sont les arguments avancés par
Monsieur Perea.
Alors, je lis, dans l'indépendant. Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a rapporté, ce qu'il a dit, au journaliste.
Bah, on lui demandera quand il sera là dans quelques semaines.
Je ne serai pas là, malheureusement, je ne serai pas là. Puis il dit, j'aurais souhaité travailler cette loi, car ça fait 25 ans que je suis dans la fonction publique territoriale, que je réfléchis sur ce sujet. Mais le ministre et son entourage n'ont jamais fait suite à mes demandes de rendez-vous.
Oui, ça, c'est un peu surprenant, d'ailleurs.
C'est agaçant, quoi. Moi, un député qui est ce fonctionnaire territorial, je ne suis pas reçu par le ministre. En fait, d'ailleurs, j'avais des choses à lui dire parce que je suis fonctionnaire territorial. C'est pas le seul. Il y en a d'autres, parmi les députés. Puis, le ministre, quand même, il connaît un peu la question. Ancien socialiste, d'ailleurs, M. Dussault, etc. Ancien collègue, donc, de fait, de M. Perea. Enfin, bref, ils se connaissent, quoi.
Oui, bon.
Deuxième argument avancé. Avant, quand même, je note cette petite remarque dans l'Imperia, je dis ça gentiment, c'est pas parce que je votais contre, et c'est le seul encore, je le rappelle, que je vais créer un groupe de frondeurs. Un groupe de frondeurs à lui seul.
Oui, bon. Ça rappelle la chanson de Renaud, là, je suis une bande de jeunes, moi tout seul.
il ira pas bien loin, si je puis dire. Mais, alors, il insiste quand même, il dit, mais je reproche au gouvernement de ne pas s'attaquer à la question de la rigidité de la fonction publique territoriale, héritée de la fonction publique d'État. Donc on en revient, en fait, à ce que je disais précédemment. Et il dit, par exemple, on ne donne pas, en fait, aux élus, le maire de Maintenac, on ne lui donne pas le pouvoir de sanctionner, en fait, ou pas, ou de lui attribuer, en fait, une récompense, les fonctionnaires qui sont sous ses ordres. Tiens donc. Enfin, moi qui suis un ancien fonctionnaire de l'État, en fait, et qui connais un peu comment fonctionne la fonction publique territoriale aussi, une ancienne fonction, ben, un maire, ben, il a un statut de la fonction publique territoriale, il sait très bien qu'il peut, ben, observation, blâme, révocation, enfin bref, qu'un conseil de discipline, il a toute une batterie, effectivement, de moyens pour sanctionner ses, oui. Pour sanctionner ses fonctionnaires s'ils travaillent mal, et puis récompenser par un système de primes, en fait, etc., s'il le veut bien, en majorant ou en minorant.
Cela dit, c'est pas forcément très utilisé.
Ah ben oui, mais ça c'est la responsabilité oui, du maire. Enfin, voilà, bien sûr. C'est pas le statut qui en soi.
C'est pas bloc, le statut.
En fait, le, monsieur, en fait, monsieur l'a pas lu. En fait, s'il avait décidé
c'est plus de, une question d'usage. Ben,
Alors il dit oui, mais quand on fait valoir ce genre d'argument en fait à l'impair, il dit mais oui, mais les élus ne le font pas parce qu'ils n'ont pas de capacité de management. Bon, d'abord, management, c'est une expression que j'aime pas beaucoup.
Après, bon. Après ce terme,
c'est comme
à préciser.
Si on disait, ben, monsieur Lapalu, ben, il sanctionne pas son cantonnier qui ne fout rien de la journée parce que, ben, il est pas capable, effectivement, de le manager, quoi. Donc, il serait pas content, hein, monsieur Lapalu, qu'on lui dise ce genre de réflexion, quoi. Me semble-t-il, quoi. Hein. Pareil pour tous les autres maires, quoi. Hein. Et puis, alors, dernier argument qui tient pas la route, quoi, hein, c'est ben voilà, on laisse de côté la fonction publique hospitalière. On ne traite pas le problème des urgences. C'est pas la question. Le projet de loi sur la fonction publique, en fait, en général, n'est pas là pour traiter le problème des urgences, en fait. Hein. C'est un problème qui relève du ministère de la Santé.
Du cadre que tu décrivais tout à l'heure.
Voilà, budget, en fait, tout ce qu'on voudra. Et pareil pour les médecins intérimaires. Bon, c'est pas le problème de la fonction publique. Bref, une batterie d'arguments qui, me semble-t-il, en tout cas, tels qu'ils ont été par la presse, ne tiennent vraiment pas la route. De sorte que je n'arrive à me demander, à me poser la question si tout ça, hein, n'est pas le prétexte à, comment dirais-je, à se différencier un petit peu de ses collègues et de dire, vous voyez, moi, je ne suis pas bon député Gaudillot, oh, j'ai voté contre.
Bon, eh bien, on lui posera la question dans quelques semaines.
Mais on ne peut quand même ne pas avoir ce genre de petite idée à l'esprit. C'est vrai que, je suis... Bah, voilà, je taquine peut-être un peu trop, mais non.
C'est une question que chacun a le droit de se poser et on verra la réponse.
Oui, bon, voilà.
Pour terminer cette deuxième partie, alors un petit mot sur cette histoire de sac poubelle entre le Grand Narbonne et la ville de Narbonne.
Franchement, il nous gonfle avec ça. Enfin, franchement, sortir à la une de l'Indépendant.
Ah, ben ça, c'est un choix.
Soit terminé, Jean-Claude. Le jeudi de l'Ascension, quand même, il faut le faire, quoi.
Oui.
Descendre aussi bas, si je puis dire, dans la polémique, en fait, dans la polémique.
Oui, c'est pas très ascensionnel.
La polémique à la fois politicienne et puis médiatique,
bon,
quoi. Enfin,
hein. Oui, bon.
Faire une pleine page sur les différences et la bagarre, en fait, entre l'Aglo et Narbonne. Prétendue bagarre, j'en sais rien.
Enfin, fait, oui. Si, si, au conseil municipal, M. Saint-Cluc a soulevé le problème.
Oui, a soulevé le problème. Donc, le jour de l'Ascension, je trouve ça, bon, une pleine page, je trouve ça quand même un peu ridicule, quoi. J'ai d'autres sujets, bon, à traiter, que cela, me semble-t-il. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire de sac poubelle? Bon, c'est que le Grand Narbonne, dans sa grande générosité, en distribue avec le grand logo, en fait, Grand Narbonne, et M. Saint-Cluc qui dit, oui, ben voilà, Narbonne, c'est mal distribué parce qu'il y a le logo, en fait, du Grand Narbonne, et que le logo, le Grand Narbonne, ça donne des frissons, pour ne pas dire plus.
Ou de l'urticaire.
Du moulis, en fait, il ne supporte pas le Grand Narbonne. Bon, je n'en sais rien, mais il paraît qu'effectivement, il y a des sacs poubelles.
Ça aussi, c'est une question qu'on posera à Didier Mouly, qui sera là prochainement aussi.
Mais enfin, bon, voilà, c'est pas de niveau, quoi. Bon, on a d'autres choses à penser, d'autres choses à traiter. Bon, on parle un peu d'avenir. Il y a les municipales dans quelques mois, en fait. On est vraiment en plein dedans, quoi. Hein. Ben, qu'on nous donne une vision de Narbonne qui ne se limite pas, et du Grand Narbonne, qu'à une question de sac poubelle, en fait, Jean-Claude. Ça serait quand même mieux, non?
Oui. Ben, voilà. Là encore, on en pense ce qu'on veut. Mais, bon, allez, on met tout ça au container.
Oui, voilà.
Et on marque une deuxième pause, après laquelle, je le rappelle, nous retrouvons notre invité du jour, Christian Lapalu.